Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de méditer sur une partie de l'évangile que nous entendrons dimanche prochain. Un mot de contexte tout d'abord. C'est toujours le dernier repas de Jésus avec ses disciples avant d'être arrêté et de subir la passion. Le Christ leur révèle que le Père est manifesté en lui. « Qui m'a vu a vu le Père », dit-il à Philippe. Il leur annonce qu'il va leur être arraché et que pourtant il va leur envoyer un autre consolateur, un autre paraclet pour qu'ils ne soient pas orphelins. Jésus annonce que les apôtres reconnaîtront qu'il est en son Père, que eux sont en lui et que lui est en eux. Alors Jude pose une question, l'apôtre Jude pose une question, « Seigneur, qu'est-il advenu que tu doives te manifester à nous ?» et pas au monde. Cette question précède immédiatement le passage que nous allons entendre. Jude s'interroge, y a-t-il des motifs qui font que Jésus ne se révélera qu'à eux, ou bien y a-t-il un objectif pour que Jésus ne se révèle qu'à eux? Lisons maintenant un extrait de l'évangile de dimanche prochain, les versets 23 à 26, tandis que dimanche prochain nous irons jusqu'au verset 29. Je commence la lecture. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. » Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Au moyen de paroles très simples, saint Jean nous désigne une réalité extrêmement élevée. Nous viendrons chez lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. Il est en train de dire que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, fera une demeure dans le cœur des disciples de Jésus, qu'il fera de leur cœur son propre temple. Ce n'est absolument pas naturel. Le Dieu des dieux, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a tout créé, qui est plus grand que tout, qui est de toujours à toujours, comment pourrait-il faire sa demeure en nous? Ou plus exactement, comment pourrions-nous le contenir? C'est un miracle qui rappelle celui du buisson ardent, où le buisson accueille le feu sans pourtant être consumé. C'est un miracle de Dieu que de faire que nous puissions être les temples de sa présence. Il faut nous émerveiller de cela. Ce n'est pas simplement Dieu qui dirait « je ferai un graffiti dans ton cœur pour dire que je suis passé ». Non, je serai présent, je serai vivant, je ferai de toi ma demeure, le lieu où je suis vivant. Je pense qu'il nous faut aussi nous en émerveiller en faisant mémoire de l'histoire d'Israël. Vous savez qu'au début de l'histoire d'Israël, il y avait une multiplicité de temples un peu dans chaque village. Il y avait, ce n'était pas des grands temples, mais c'était des petits temples où avaient lieu les sacrifices, et que la réforme de Josias avait justement interdit tous les temples sauf celui de Jérusalem. Il n'y avait donc qu'un lieu où l'on savait que Dieu se faisait proche. Il n'y en avait pas d'autre, on ne pouvait pas en avoir d'autre. Et là, Dieu vient ouvrir cette réalité du temple d'une façon nouvelle. Chacun de ceux qui gardera les paroles de Jésus deviendra un temple de la vie, de la présence même de Dieu. L'interdiction du roi Josias au 7e siècle avant la naissance de Jésus préparait en fait un don particulier, ce don particulier que Dieu voulait réaliser en nous et que Dieu seul pouvait réaliser en nous. Et pour que cela advienne, il fallait que nous nous gardions de vouloir bâtir nous-mêmes le temple de Dieu au lieu de le recevoir. Remarquons encore dans cet évangile une logique de transmission. Il faudra garder ma parole, mais en fait ma parole n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Ainsi, je rends manifeste la parole du Père. Et il continue encore en disant que pour garder ma parole, l'Esprit Saint vous fera vous souvenir de tout ce que j'ai dit. L'Esprit Saint sera celui qui remanifestera mes paroles en vous. Vous voyez que l'on retrouve la logique qui apparaissait déjà dimanche dernier autour de la glorification, de la manifestation. Le Fils va rendre présent le Père, va rendre manifeste le Père. L'Esprit Saint va rendre manifeste les paroles du Fils. Le Père rendra visible l'action du Fils et de l'Esprit Saint. Cette logique de la manifestation, de la glorification est importante à percevoir parce que si Dieu fait sa demeure en nous, si nous vivons de la même vie que Dieu, alors nous aurons nous aussi à rentrer dans cette logique de la manifestation. Nous aurons nous aussi à être rayonnants de la présence divine pour le manifester à travers notre vie. Et nous comprenons mieux alors pourquoi dans les cellules paroissiales d'évangélisation, l'oïkos n'est pas une option à faire si, pour ceux qui en auraient envie, pour ceux dont ce serait le truc, la sensibilité, mais est l'expression de la réalité de la vie divine à laquelle nous adhérons, de la vie divine que nous avons reçue. Elle nous oblige, c'est son expression même, de se donner à voir, de donner à voir la vie même de Dieu. Et donc de le partager, de partager cette vie à ceux qui nous entourent. Si je vis de la vie du Dieu qui rend témoignage, alors moi aussi je dois rendre témoignage. Je voudrais à présent me pencher sur un élément particulier du texte que nous avons entendu. C'est en gardant la parole du Christ qu'il viendra avec le Père et chez nous fera une demeure. Le nœud est donc garder sa parole. Or, pour que nous puissions garder sa parole, il y a un élément nouveau qui est apporté, qui est présenté. Le défenseur, l'Esprit Saint, envoyé par le Père au nom de Jésus, lui nous enseignera tout, lui nous fera souvenir de tout ce qu'il nous aura dit. Donc pour garder la parole de Dieu, l'action de l'Esprit Saint a un rôle central. Je voudrais me pencher un instant sur ce rôle central de l'Esprit Saint. Dans l'Ancien Testament, on avait remarqué une action de l'Esprit Saint sous deux manières. Une première manière charismatique, l'Esprit Saint est présenté comme une force divine qui surgit en certaines occasions et qui va donner, rendre les personnes capables d'actions, de prestations au-delà des possibilités humaines. L'Esprit Saint descend sur une personne, la remplit de sagesse, ou bien l'un autre reçoit une capacité artistique pour embellir le temple, à d'autres il donne le charisme de la prophétie, ou des qualités exceptionnelles de gouvernement dans le livre des juges, par exemple. La deuxième manière dont l'Esprit Saint agit est une manière sanctifiante. Elle apparaissait à partir des prophètes et dans les psaumes durant et après l'exil à Babylone. En Ézéchiel, par exemple, Dieu annonçait « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. » C'était en Ézéchiel 36, les versets 26 à 27. Et le psaume 50-51 est le premier à qualifier l'esprit de « saint » en l'associant à un processus de purification et de renouvellement du cœur. Psaume 50-51, le verset 12 et suivant. Ici, dans notre passage, c'est de l'action sanctifiante de l'Esprit Saint dont il est question. Une action qui reste dans la personne qui les reçoit, en la renouvelant et en la transformant intérieurement. C'est cette transformation qui aboutit à la vie nouvelle dans l'Esprit, qui aboutit à la pratique de la charité. L'Esprit Saint apparaît d'abord comme celui qui nous fera souvenir. Donc parfois on se demande, mais comment est-ce que les apôtres se sont souvenus de ce que le Christ leur avait dit? l'Esprit Saint est le garant de ce souvenir. Oui, il y a quelque chose vraiment de fondamental ici à repérer, c'est que le Christ annonce le rôle de l'Esprit Saint comme garant de la mémoire de l'Église, que l'Église porte bien la mémoire de ce que le Christ a accompli. Enlevez l'Esprit Saint, vous avez enlevé le garant de la vérité du souvenir. Par ailleurs, il y a une exhaustivité, c'est-à-dire que il vous fera vous souvenir de tout ce que je vous ai dit. On insiste sur le tout, ça signifie qu'il n'y a pas un chapitre qui aurait été oublié. Bien sûr, par la suite, il pourra y avoir des approfondissements, mais le tout a bien été donné. Le Christ est le tout de la révélation, et l'Esprit Saint nous permet de nous souvenir de tout ce que le Christ a dit. Il n'y a pas de révélation nouvelle à recevoir au-delà du Christ. Mais vous voyez comment cela, du coup, va éveiller une dimension de notre prière, parce que à la fois nous avons entendu les Écritures, nous avons reçu des témoignages, nous avons même nous aussi une expérience de la vie avec le Christ, mais est-ce que nous demandons à l'Esprit Saint de nous permettre de nous souvenir de tout ce que le Christ nous a dit? Vous savez bien que quand on entend une conversation, quand on entend un cours, un enseignement, on ne se souvient généralement que de certaines parties. On n'a pas gardé l'intégralité de ce qui était dit. Or, peut-être qu'il y a des éléments dans ce discours qui portaient notre vie pour d'autres moments. Et donc, il y a une prière à l'Esprit Saint que nous pouvons adresser. Et donne-moi de me souvenir de tout ce que le Christ m'a dit depuis le commencement de ma vie, depuis que j'ai appris à le connaître. Esprit Saint, comme tu l'as fait auprès des disciples, viens me remettre en mémoire ce que le Christ a dit et auquel je n'ai peut-être pas prêté attention ou sur lequel mon attention doit être renouvelée. C'est pour cela, par exemple, que saint Ignace, dans les retraites qu'il proposait, régulièrement faisait des moments de relecture où, justement, on demande à l'Esprit Saint de remettre en lumière ou d'approfondir un point qu'on aurait pu entendre et auquel on aurait pu ne pas prêter attention. On relit ce qu'on a vu, ouvert à ce que l'Esprit pourrait mettre en lumière plus particulièrement. Et puis il est dit, l'Esprit vous enseignera tout. L'Esprit vous enseignera tout. C'est à la fois un terme qui va désigner, on pourrait dire, l'ampleur des matières, l'ampleur des sujets. Il vous enseignera tous les sujets dont le Christ a parlé, mais aussi la profondeur de compréhension dans ces sujets. C'est pas simplement « ah oui, j'ai vu toutes les têtes de chapitres », mais je suis allé en profondeur dans chacun de ces chapitres et j'ai pu les intégrer, c'est-à-dire j'ai appris comment les mettre en pratique. Pour le dire autrement, l'Esprit Saint est celui qui nous permettra de savoir « voilà ce qu'il faut faire ». Et voilà comment vous pourrez le mettre en pratique. Et voilà comment vous pourrez le mettre en pratique dans votre propre existence, dans vos propres relations. En effet, la parole de Dieu, la vie de Dieu va être manifestée d'une façon particulière à travers chacune de nos vies. C'est l'unique vie de Dieu qui sera manifestée, mais elle sera manifestée avec une coloration particulière de chacune de nos vies. Prenons l'exemple d'un musicien qui jouerait alternativement de la flûte à bec, du hautbois ou de la trompette. Ce sera toujours son même souffle qui intervient, mais le son sera différent selon l'instrument qu'il aura pris. Et de la même façon, ce sera toujours la même vie de Dieu soufflée par l'Esprit Saint, mais qui résonnera différemment par l'instrument que chacun de nous nous sommes. Ou si vous préférez une image visuelle, c'est le même soleil qui rentre dans la cathédrale, mais le rayonnement perçu est différent selon le vitrail, selon la couleur du vitrail qu'il traverse. Il sera rayonnement bleu, rayonnement vert, rayonnement rouge, selon le vitrail qu'il aura transpercé. Au terme de notre enseignement, retenons peut-être trois choses en particulier. Le Dieu qui rend témoignage, le Père au Fils, le Fils au Père, veut faire sa demeure en nous, ce qui signifie que nous aussi nous rendrons témoignage à la vie divine. Vivre de la vie de Dieu, c'est rentrer dans cet élan du témoignage. C'est la première chose. La deuxième, c'est que pour que cela advienne, nous avons besoin de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint joue un rôle central, car c'est lui qui nous permet de garder la parole du Christ. La troisième, et la conséquence de cela, c'est notre prière à l'Esprit Saint. Nous sommes invités à demander à l'Esprit Saint à nous faire souvenir de ce que le Christ nous a dit, à témoigner, nous a fait parvenir dans notre existence et dans notre vie spirituelle, et nous faire aussi entrer dans la profondeur de ce que nous avons reçu. Profondeur de compréhension et profondeur de mise en œuvre. Je vous souhaite de bons échanges.